Ce matin, en venant en retard, donc j'étais en situation d'échec, un peu comme les disciples d'Emmaüs la semaine dernière. Nous avons vu un petit peu leur cheminement et dans quelle mesure leur histoire pouvait nous parler. Ce matin, j'étais en retard, donc, et puis à la radio France Info, dans la voiture, j'ai entendu le témoignage d'une dame qui habite à Marseille, au Pin Mirabeau, où il y a eu ce feu en début de semaine, un feu terrible qui a ravagé je ne sais combien d'hectares. Et cette dame disait, en parlant des pompiers, « Chapeau les pompiers, vraiment, nous on est là, on est impuissants, on regarde nos maisons brûlées, et puis les pompiers, ils sont à fond, etc. » Et puis tout à coup elle dit « Mais j'aimerais leur demander pardon. » Demander pardon parce que parfois nos paroles, mes paroles n'ont pas été à la hauteur. Pardon pour ce que je leur ai dit parce qu'ils avaient mis du retard à venir. On avait l'impression qu'ils n'arrivaient jamais, quoi. Il y avait le feu à la maison et puis on attendait les pompiers. Et vraiment pardon pour ce que j'ai dit à la radio. Et je me suis dit waouh, c'est intéressant. Du coup, j'ai pas été content d'arriver en retard, mais je me suis dit ben voilà une bonne illustration pour ce matin parce que ça correspond tout à fait à ce que je veux vous partager. Qui parle de situation d'échec, comme on dit dans notre jargon évangélique, les chutes, chuter. Et nous sommes tous concernés par l'échec dans nos vies chrétiennes, tous. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que nous sommes tous des pécheurs, tous. Péché fait partie non seulement de la condition humaine, mais aussi de la vie des chrétiens, quelle que soit leur connaissance biblique, leur maturité ou leur statut dans l'Église. L'apôtre Paul l'exprime de la manière suivante, vous connaissez tous Romains 7, hein, « Je fais ce que je ne veux pas faire et ce que je voudrais faire, je ne le fais pas, etc. etc. » Jésus-Christ est la représentation parfaite de l'homme tel que Dieu l'avait prévu. Il représente ce que nous aurions dû être. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jésus devant le calvaire. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme, voici l'homme. Ecce homo. Il est l'homme. » Jésus-Christ, c'est l'homme, l'humain, tel que Dieu le conçoit. Pour nous chrétiens, il est donc notre modèle suprême, l'idéal parfait, l'exemple, on va dire, universel, que notre planète ferait bien de suivre et écouter et entendre. Il est la référence ultime, notre référence ultime, mais il est la référence ultime à l'histoire de l'humanité. Si le péché avait enlevé toute sa valeur à l'homme, et la chute, hein, pensez-vous que Dieu ce serait donner autant de peine en envoyant Jésus-Christ. Quelle est ma valeur aux yeux de Dieu, ça c'est mon premier point, malgré le péché. Tout homme, toute femme a de la valeur aux yeux de Dieu, car il porte, hein, d'une manière ou d'une autre, l'empreinte de sa personne. Dénaturé par le péché, mais il porte en lui-même l'empreinte de la personne du Créateur. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Bien entendu, cette valeur prend tout son sens lorsque l'homme se convertit, c'est-à-dire, ou plutôt quand Dieu convertit l'homme, parce que c'est Dieu qui nous convertit, c'est Dieu qui change notre cœur, hein. On ne peut pas le faire de nous-mêmes. On est d'accord, mais... Lorsque l'homme devient une nouvelle créature, il possède, et ça j'en ai la conviction profonde, une nouvelle identité, un nouveau statut, une nouvelle essence, il n'est plus ce qu'il était avant. J'irai même jusqu'à l'ADN, son ADN a changé. Il possède désormais l'ADN de Christ. Et l'homme donc entre dans cette démarche de reconstruction, pour ressembler de plus en plus au modèle parfait, Jésus-Christ. Nous tous, qui le visage dévoilé reflétons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'esprit. La transformation, c'est l'objectif. C'est le but. C'est le but de Dieu pour ta vie, c'est le but de Dieu pour ma vie. C'est le but, mais en même temps, nous devons être conscients que nous sommes tous en chemin vers ce but. Nous y allons. C'est son objectif, mais nous sommes en chemin vers ce but, vers cet objectif ultime. Et nous en sommes tous à des niveaux différents, à des stades différents de la transformation. Néanmoins, le miracle de la grâce de Dieu fait que nous apprenons plus, finalement, de nos échecs que de nos réussites. Car l'échec est souvent instructif, beaucoup plus instructif que le succès. Pour preuve, la situation d'échec dans laquelle cette dame qui criait au feu et qui ne voyait pas arriver les pompiers, à la fin, elle a dû demander pardon parce qu'elle a vu le boulot des pompiers. Parfois, c'est exactement pareil pour les gens autour de nous qui, jusqu'au jour où ils découvrent qui il est et qui se disent « Mais mince, pourquoi j'y ai pas cru avant ?» Et nous, en tant que chrétiens, parfois, nous sommes aussi dans cette attente où nous plaignons, que Dieu n'est pas là où nous l'attendons. Mais quand on le voit arriver et qu'on comprend le travail qui a été fait entre le point A et le point B, on ne peut que tomber à genoux et lui dire pardon. Je t'ai ignoré, je t'ai renié, j'ai bafoué ton autorité, j'ai cru que tu n'étais pas tout-puissant, j'ai eu des doutes sur ta toute-puissance, et maintenant je te demande pardon. Notre réussite dans la vie est souvent liée aux échecs antérieurs dont nous avons su tirer profit. Si l'effet grisant du succès a tendance à nous étourdir, la frustration de la défaite nous pousse à réfléchir et à rechercher une meilleure solution. L'homme qui réussit, faut le dire, a tendance à s'enorgueillir. C'est le propre de l'homme. La réussite nous fait enfler. Tandis que celui qui échoue a tendance à s'humilier. Or, l'orgueil précède la chute, tandis que l'humilité précède la gloire. C'est exactement ce que dit la Bible. Proverbe 18, il dit même « Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Quelque part, j'ai envie de nous dire, et je me le dis à moi-même ce matin, j'ai envie de prendre courage au milieu de mes échecs, au milieu de mes chutes. Il existe un seul endroit, finalement, où nous pouvons puiser ce courage, c'est au pied de la croix, auprès de l'amour inconditionnel de Dieu. Parce que c'est au pied de la croix, c'est à la croix que se trouve l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour sans condition. Quelqu'un a écrit ce qui suit. « L'amour de Dieu est sans fin, il ne s'arrête jamais. Que nous le repoussions, que nous le rejetions, le haïssons ou lui désobéissions, il ne change pas. Notre méchanceté ne peut altérer son amour, ni notre bonté l'augmenter. » Notre foi ne peut pas plus le gagner que notre stupidité le mettre en danger. Dieu ne nous aime pas moins dans l'échec ou la réussite. Son amour est sans fin. » Fin de citation. C'est magnifique. On a du mal à aimer de cette manière-là. Et c'est pour ça que parfois on a tendance à définir Dieu par rapport à notre façon de faire. Nous définissons l'amour de Dieu par rapport à notre façon d'aimer. Nous définissons la justice de Dieu par rapport à notre façon d'exercer la justice. Mais c'est faux. Il est Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes, pécheurs. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à nous relever lorsque nous chutons. Néanmoins, afin que nous nous comprenions bien, ce qu'il en est de l'amour inconditionnel de Dieu, j'ajoute, Dieu nous aime comme nous sommes. Dieu t'aime comme tu es. Mais il refuse de te laisser tel que tu es. Dieu veut la transformation. C'est son but, c'est son objectif pour notre vie. Vous savez, il y a des personnes qui essuient tellement d'échecs, ont tellement du mal à avoir la victoire sur le péché, qu'elles se découragent totalement, finissant par devenir fatalistes. Je suis comme ça, c'est ma nature, je n'y peux rien, je ne changerai jamais. Et finalement, je suis un peu comme ça, et c'est quand même décourageant comme perspective. Mais il y a une bonne nouvelle. Voici l'homme. Ecce homo. Voici l'homme. tel que Dieu le conçoit. Éphésiens chapitre 3, verset chapitre 2, versets 14 à 16. L'homme nouveau, c'est d'abord le Christ, en personne, car il est notre paix. Ce n'est pas nous qui sommes notre paix avec Dieu, c'est lui. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Ce n'est pas nous qui renversons le mur de séparation entre Dieu et nous, c'est encore lui. L'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il n'y a plus d'inimitié entre toi et Dieu si tu lui appartiens. Il n'y en a plus. Il peut y avoir des disputes. Tu peux lui faire la tête. Mais il n'y a plus d'inimitié. Il l'a détruit. Ça ne dépend pas de toi et de tes petits bras musclés ou de ta lecture de la Bible 3 fois par jour et de tes 5 prières par jour. Non ! Ça dépend de lui et seulement de lui. Et ça, c'est fantastique. Fabuleux ! L'homme nouveau, c'est donc tout homme qui vit et marche dans la victoire de Jésus-Christ. Mais dans ce sens, l'homme nouveau n'est plus asservi par la chair car il marche par l'esprit. L'homme nouveau est en train de redevenir ce qu'il aurait dû être avant la chute. Et j'insiste sur ce point. Il est en train de redevenir ce qu'il aurait dû être. J'insiste bien là-dessus. C'est pas fait. Nous sommes en chemin. Être en train signifie qu'il faut du temps. Et dans la pratique, nous entendons ce « va et ne pêche plus ». Constamment, nous l'entendons, ce « va et ne pêche plus ». Si on tend bien l'oreille, on l'entend. Depuis le jour de ta conversion, tu entends Jésus te dire « va et ne pêche plus ». Hier, tu l'as entendu te dire « va et ne pêche plus ». Ce matin, certainement, moi, dans ma voiture, je me suis dit « ben, Dieu m'a dit, mais tu vois, t'es en retard là encore. Hein. Va et ne pêche plus ». Je ne sais pas si je vais arriver à l'heure la semaine prochaine, mais en tout cas, demain, après-demain, j'entendrai encore ce « va et ne pêche plus ». Et moi, dans ma petite tête, dans mon petit cœur étriqué, je me dis « jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand je serai comme ça ? Jusqu'à quand je voudrais faire le bien et le mal restera attaché à moi ? Jusqu'à quand j'aurai pris des décisions et je n'arriverai pas à m'y tenir ? Jusqu'à quand je vais sombrer dans ce que, dans mon vécu, dans mes incapacités, dans mes travers, dans ce que j'ai vécu dans le cadre de mon éducation, de ce que je vis dans mon caractère, dans mes hormones, dans tout ça ? Jusqu'à quand ? Est-ce que Dieu continue de m'aimer lorsque je glisse dans le péché, lorsque je chute ? Est-ce que je garde la même valeur à ses yeux ? Oui ! Oui ! Nous gardons exactement la même valeur. Marcher par l'esprit signifie absence d'échec ? Non ! Marcher par l'esprit ne signifie pas absence d'échec, parce qu'autrement on est cuit, hein, je vous le dis de suite. Hein. On est cuit. C'est pas possible. Sanctification signifie ne plus pécher. Avant tout, nous devons peut-être redéfinir ce qu'on appelle péché. Premièrement, le péché, c'est grave. C'est grave, pas le minimiser. C'est grave. Grave parce qu'il dénature non seulement notre espèce, l'espèce humaine, mais aussi et surtout parce qu'à la chute, il nous a séparés de celui qui nous a créés à son image et qui nous aime. Donc, c'est grave. Ça, c'est la première des gravités. Deuxièmement, au sens propre, il nous faut savoir que le péché ne désigne pas nécessairement des actes coupables. Non, non, non. C'est-à-dire négliger de faire ce que nous aurions dû, ni même commettre ce que nous n'aurions pas dû. Le péché ne désigne pas nécessairement des actes coupables. Et troisièmement, qui explique les deux premiers points, c'est que le péché, c'est un état. C'est une condition. Avant d'être un acte, c'est une condition. Nous n'avons pas un problème avec les actes. Nous avons un problème d'abord, avant tout, avec notre condition. Il faut que notre condition soit réglée pour que les actes puissent être réglés. Si notre condition n'est pas réglée, ne change pas. Tu peux travailler sur les actes, ça ne sert à rien. C'est une maladie, une condition qui se manifeste par des symptômes. L'état de péché produit des actes de péché. À quoi ça sert de guérir les symptômes d'une maladie si on ne traite pas la cause ? Vous savez, c'est un peu comme le double vitrage qui nous empêche d'être dérangé par le bruit incessant des voitures qui passent. Les voitures sont toujours là. Elles font toujours du bruit, mais on ne les entend plus. Et le message du christianisme, et c'est pour ça qu'il est, il est splendide, c'est que finalement nous invite à affronter les causes avant d'affronter les symptômes. C'est ça le message de l'Évangile. Soigner l'état plutôt que les manifestations. Soigner l'état avant les manifestations. Mais on ne peut pas le soigner nous-mêmes. Nous avons besoin du grand médecin. Soigner le fond, la racine, l'état. C'est ce qu'on appelle la théologie. En théologie, la sanctification initiale. Nous avons besoin que Dieu nous change initialement. Que nous ne soyons plus les mêmes initialement, mais plus du tout. Que nous soyons de nouvelles créatures. À partir de là, on va commencer à soigner les symptômes. Mais si la base n'y est pas, nous sommes des religieux. Nous sommes des religieux. Nous essayons de nous améliorer par nos propres forces. Mais nous n'avons pas reçu ce qui fait la force de cette amélioration. La marche par Christ, avec Christ, c'est ce qu'on appelle en théologie la sanctification progressive. Il y a la sanctification initiale, et puis après il y a la marche avec Christ. Le péché caractérise l'état d'aliénation de l'homme par rapport à Dieu. Le péché n'est pas créé par Dieu, mais il est le résultat de la chute d'Adam, le résultat de la volonté de l'homme. Nous sommes tous infectés par ce virus. Cependant, et là je reviens au livre d'Ésaïe, cependant, j'aime bien ce cependant, néanmoins, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que tu crois qu'à chaque fois que tu pèches, Jésus est crucifié à nouveau? Ça n'a rien à voir, parce qu'il s'agit, la crucifixion, il s'agit de ta sanctification initiale. Ce qui est fait une fois n'est plus à refaire. Ce qui est fait est fait. La réponse que donne Dieu au péché, c'est la croix. La réponse que Dieu donne à mes péchés, à nos chutes, à mes chutes, c'est la croix aussi. Tout se passe au pied de la croix. Concernant le péché, il y a d'abord un pardon judiciaire. On appelle ça un pardon judiciaire. C'est dommage qu'il n'y ait pas Yann ce matin, qui est avocat. C'est bien qu'il nous en parle un jour, parce que c'est le pardon judiciaire. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est magnifique, acte 10, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas uniquement que Dieu est mort pour nos péchés, quotidiens, mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes pardonnés à la racine, pardonnés à la base. Pardonner dans notre état. C'est là la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de Christ. Après, il y a la marche. Mais d'abord, c'est ça la bonne nouvelle. L'unique moyen par lequel le pardon judiciaire s'opère, c'est la croix. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce. Pourquoi ? Pour toutes nos offenses. Celles d'aujourd'hui, celles d'hier, d'avant-hier, de demain et d'après-demain. Toutes. Il a effacé l'acte, et c'est là qu'on parle de l'acte, quelque chose de judiciaire, quelque chose qui nous empêchait de rentrer dans cette dimension-là, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. L'acte a été éliminé en étant cloué à la croix. Colossiens 2. Ensuite, nous bénéficions d'un pardon familial, puisque Dieu est devenu notre Père en Christ. Et parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, par lequel nous pouvons crier « Papa ». Comment ça se fait que je peux crier « Papa » ? Mais parce que je ne suis plus le même. Je peux crier « Papa » parce que j'ai l'ADN de mon Père. Autrement, tu ne peux pas dire « Papa ».« Papa ». Abba Père, quelle phrase ! Enfant de Dieu, notre condition humaine en tant que chrétien, né de nouveau, notre condition a changé. Elle a changé. Nous ne sommes plus et nous ne pourrons pas et nous ne pouvons plus être ce que nous étions avant. Ce n'est pas possible. Malgré nos échecs, malgré nos chutes, malgré nos erreurs, parce que maintenant, Dieu se sert de tout ça. Il y a des gens, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Il n'est pas chrétien. Un chrétien ne peut pas faire ça. Ah bon ? Où c'est écrit ça ? Un chrétien peut faire n'importe quoi. N'importe quoi. Un vrai chrétien peut faire n'importe quoi. C'est dommage, c'est triste, parce qu'il dénature et il donne un mauvais témoignage de qui est vraiment Dieu, et de l'amour de Dieu, et de la croix. Mais malheureusement, oui, un chrétien est capable de tout. Mais la différence, il est écrit 7 fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Car le juste pourra tomber 7 fois, il se relèvera, tandis que les méchants perdent pied dans le malheur. On ne peut pas tirer un trait, si tu es vraiment chrétien, on ne peut pas tirer un trait sur ta vie. Toi, tu peux tirer un trait sur la vie de quelqu'un, mais franchement, si Dieu n'a pas décidé de tirer un trait, ça ne sert à rien. Mais lui, il ne tire pas de trait comme ça. Le seul trait qui nous sépare d'avec Dieu, c'est la croix. Ceux qui auront compris, embrassé le sacrifice de Christ, et ceux qui ne l'auront pas compris. Je perds pied, personnellement, lorsque j'oublie que je suis le fils de mon Père. Lorsque j'oublie l'amour inconditionnel de Dieu, lorsque j'oublie que Dieu est lent à la colère et riche en bienveillance, lorsque j'oublie qu'il ne me traite pas selon mes péchés, ouf, lorsque j'oublie l'efficacité de sa bienveillance, lorsque j'oublie que Dieu a compassion de moi parce que je suis fils. David a eu une révélation spéciale de cette nouvelle condition. Dans le psaume 103, il l'exprime ainsi, il dit « L'Éternel est compatissant et il fait grâce ». Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, de ceux qui le respectent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. On a l'impression parfois de perdre pied. C'est vrai. En tant qu'être nouveau, recréé par Dieu, on n'est plus asservi à la chair. Nous marchons par l'esprit. Nous faisons tout pour marcher par l'esprit. Nous essayons, en tout cas, par les forces que Dieu nous donne, de redevenir ce que nous étions avant la chute. Nous sommes en train. Mais notre nature profonde a changé. Si tu es chrétien, ta nature profonde a changé. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui le sont aussi autour de nous et qui ne veulent plus rien entendre parler d'église ou de quoi que ce soit. J'en ai eu 2 au repas il y a 2 jours chez nous, un soir, cette semaine. Plus rien entendre parler. L'église, ça ne les intéresse plus. Mais Dieu n'a pas fini avec eux. Je n'ai pas envie d'argumenter. Je leur dis, écoutez, avec ce que vous avez vécu, et c'est vrai, ils en ont vécu, je vous comprends. J'avoue qu'il y a des moments dans ma vie où je me dis, ben dis donc, j'aime bien mon église. Heureusement que je suis dans celle-là, parce qu'il y a longtemps que j'aurais foutu le camp. Mais Dieu n'en a pas fini avec moi. Il n'en a pas fini avec toi. Il n'en a pas fini avec eux. Je ne suis pas juge de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils ne vivent pas. L'homme renouvelé, adopté par Dieu, est un chemin vers une totale guérison, une complète transformation. Mais nous portons encore ici-bas les séquelles de ce que nous sommes, de notre condition ancienne. Nous sommes sur la voie de la guérison. Les séquelles sont les défauts de nos personnalités qui nous agacent, qui nous dégoûtent. Les séquelles sont toutes les mauvaises habitudes avec lesquelles nous luttons. Les séquelles sont nos échecs répétés, nos défaites, nos chutes, qui ont aussi cet avantage de nous humilier, qui sont censés nous rendre dépendants de Dieu. C'est pas gagné. On est un peu comme cette femme avec ce feu et ses pompiers, qui au début se plaignaient, mais au bout du compte a dit non. Pardon. Mais il y a un laps de temps, hein. Il s'est passé combien de jours, combien d'heures entre le moment où elle a dit « Mais ces pompiers, c'est pas vrai, mais ils mettent tant de temps à arriver là. C'est nul !» Et puis le moment où elle dit « Écoutez, excusez-moi, j'ai parlé trop vite. » Et il y a un temps entre les deux. Dans sa fameuse maxime « Similus instus et peccator », le juste pécheur à la fois, le réformateur Martin Luther résume notre condition. Il dit « C'est comme une personne qui est malade et qui croit au médecin qui lui a promis une guérison totale. » En attendant, elle obéit aux ordres du docteur en espérant recouvrer la santé. C'est pourquoi elle s'abstient des choses que le médecin lui a déconseillées, afin que rien ne vienne ralentir ni faire obstacle à la guérison promise. Objectif. Cette personne malade est-elle en bonne santé? En fait, elle est à la fois malade et guérie. Elle est malade en réalité, mais elle est guérie sur la base de la promesse faite par le docteur en qui elle a confiance et qui la considère déjà comme guérie. Vous allez me dire, mais pourquoi je chute toujours au même endroit? Pourquoi ce sentiment d'échec permanent, lancinant? Quelle est ma valeur finalement aux yeux de Dieu malgré mes échecs répétés? Vous savez, Thomas Edison, vous connaissez Thomas Edison? Thomas Edison, c'est un inventeur américain célèbre. Il a fait plusieurs découvertes importantes dans l'histoire, des techniques modernes. Et parmi ces découvertes, la lampe à filament de carbone. C'est une lampe, donc une ampoule. Et à l'entrée de la célèbre bambouseraie de Prafrance, au pied des Cévennes, se trouve l'inscription suivante. Thomas Edison, lors de ses recherches pour trouver le filament de la lampe électrique, fit de nombreux essais. Cuir, papier, coton, spaghetti, soie, poils de barbe, etc. En 1880, après plus de 6000 tentatives infructueuses, la fibre carbonisée du bambou se révéla être le matériau idéal. Et quelqu'un fit remarquer à M. Edison les innombrables échecs accumulés jusqu'à la réussite finale. Et Thomas Edison lui a répondu « Des échecs ? Mais j'en ai connu aucun. Car je connais maintenant les 10 000 raisons pour lesquelles une lampe à incandescence ne fonctionne pas. » Une nuit de décembre 1914, un incendie se déclara dans son atelier. Tout a été endommagé. Il a perdu environ $1 million d'équipement, une grande partie de ses notes. Et en déambulant au milieu des débris carbonisés, Thomas Edison dit « Il y a du bon au cœur du désastre. Toutes nos erreurs se sont envolées en fumée. À présent, nous pouvons repartir à zéro. » Waouh ! Moi, ça m'encourage. « À présent, nous pouvons repartir à zéro. » Et ça, je pense que c'est le maître mot de la vie chrétienne, quels que soient nos échecs et nos chutes. Maintenant, on peut repartir à zéro. C'est tout simple. Aujourd'hui, tu peux repartir à zéro. Vous savez, je me méfie un peu de ceux qui enseignent une théologie de la victoire. J'ai remarqué que souvent, ce sont souvent des personnes qui ne parlent jamais de leur défaite. Leur perfectionnisme me fait peur. C'est vrai que nous avons tout pleinement en Christ. C'est vrai que nous avons le pouvoir de vaincre le péché par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Mais il est quand même écrit, nous bronchons tous de plusieurs manières dans Jacques. Le péché fait malheureusement encore partie de notre vie quotidienne. On ne peut pas faire comme si depuis notre conversion, il avait disparu. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Non, notre objectif à atteindre reste quand même celui de Matthieu 5,48. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça, c'est l'objectif. Et dans sa même lettre, l'apôtre Jean nous dit « En même temps que Dieu nous a équipés pour une vie chrétienne victorieuse », en nous disant « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché ». C'est bizarre ça. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Pourquoi il écrit ça ? Parce que ton rapport au péché n'a rien à voir avec le monde sans Christ. Parce que toi tu as Christ. Tu as été sanctifié initialement. Ton état a changé. Tu n'es plus un enfant, une créature de Dieu, mais tu es un enfant de Dieu. Et en même temps, il reste très réaliste aussi. Quant à notre vécu, il dit, si quelqu'un a péché, quand même, nous avons un avocat auprès du Père. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, mais nous avons un avocat. C'est une bonne nouvelle pour les chrétiens découragés comme moi. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont plus de points faibles que de points forts. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont plus de défaites que de victoires. C'est une bonne nouvelle pour ceux dont le péché, l'échec, la chute est inhérent à leurs conditions, malgré tous leurs efforts. Bonne nouvelle pour tous ceux qui, à cause de la répétition de leur échec, finissent par tomber, finalement, à douter du pardon de Dieu, de l'amour et de la grâce de Dieu. Vous savez, notre vie, en un instant, peut basculer. Victime d'un attentat, chômage, accident de voiture, décès d'un proche, déception relationnelle, imprévu. Toutes ces choses-là peuvent nous amener un jour ou l'autre à baisser les bras. Toutes ces choses peuvent miner notre vie de chrétien. Toutes ces choses peuvent nous décourager. Et décourager les plus spirituels. C'est peut-être pour ça que l'apôtre Paul a écrit ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Rappelons-nous que la mise à l'épreuve d'Adam et Ève, ça a été un fiasco total. Le romantisme évangélique du XVIIIe siècle ne restitue pas nécessairement toute la réalité. Tous les champions de Dieu, tous ces héros de la foi, toutes ces biographies qui finalement décrivent les hommes et les femmes qui ont toujours pris des bonnes décisions, qui ont toujours eu des bonnes notes, toutes ces biographies qui semblent souvent oubliées, volontairement de décrire les chutes, les travers, les échecs, les péchés répétés de leurs héros. Peut-être une mentalité anglo-saxonne, j'en sais rien, ou tout simplement la mentalité d'une époque. Mais moi, dit Paul, mais moi, je suis charnel vendu au péché, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà que je le fais. Et avant de m'engager dans une vie spirituelle, il y a quelque chose qu'on ne m'a pas nécessairement dit. C'est que le diable est l'ennemi très ancien de ma vie, de votre vie, et il est entraîné. Il nous connaît par cœur. J'ai souvent tiré la force de mon idéalisme et ma ferveur lorsque ma vie chrétienne n'avait jamais été mise à l'épreuve. Écoutez bien ceci. Aussi élevé que soit le niveau spirituel où vous vous croyez, aussi élevé que le niveau spirituel où vous vous croyez, où vous pensez être, souvenez-vous qu'Adam était au paradis au moment de la chute. Souvenez-vous qu'au moment de la chute, Adam était au paradis. Et ça a été un échec cuisant. Dieu le sait, Jésus le sait. Le chemin à parcourir nous paraît long. Il y en a un qui nous rappelle nos échecs constamment. L'accusateur de nos frères. Celui qui accuse devant Dieu. En ce qui me concerne, il a certainement de bonnes raisons de m'accuser. La liste doit être longue. Mais j'ai un bon avocat. J'ai un bon avocat. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, n'est-ce pas ? Et la vérité n'est pas en nous. Et nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Le proverbe dit que celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. On a plutôt tendance à faire comme Moïse qui a enseveli le cadavre de son péché dans le sable, n'est-ce pas ? Moïse l'a fait. Nous sommes tout à fait capables de le faire. Tout à fait capables. Il a fait un trou et il a enterré le mec, après l'avoir tué. Et pourtant, c'était Moïse. L'homme le plus doux, dit la Bible, le plus calme, le plus patient. Il a tapé sur le rocher. Je pense que Dieu va continuer à faire ce qu'il a commencé en nous et il va le terminer. Il nous a offert la maison. Il nous a offert la maison, la baraque. Hein. Ça, c'est la sanctification initiale. Maintenant, il va nous aider à la meubler. Et c'est un bon décorateur. Très bon décorateur. Il a la passion pour la décoration. Dieu nous aime tellement que pour lui, il n'y a pas de travail plus important que celui de changer notre intérieur. Il n'y a pas de travail plus important. Il ne va pas se contenter d'une petite table, de quatre chaises et puis d'un beau canapé. Non, il veut un palais. Dieu veut illuminer ainsi notre intelligence afin que nous comprenions en quoi consiste l'espérance à laquelle nous avons été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu nous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et écoutez bien, quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur ? Je répète pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui ? Il met toute sa puissance. C'est pour ça que Luc nous a cité Romains 8. Rien ne peut te séparer de Dieu. Rien ! Mais t'as vu un peu ce qu'il met en œuvre pour toi ? C'est pas possible. Si tu lui appartiens, même pas toi-même, tu peux te séparer de lui. C'est impressionnant. L'ambition de Dieu pour ta vie et pour ma vie est illimitée. Ça m'encourage. Il y a des moments où je suis fatigué, où j'arrive plus à avancer, où j'ai l'impression que je manque de foi ou que je sais pas. L'ambition de Dieu pour ta vie. Nous serons devenus conformes à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Il ne s'arrêtera pas tant que son travail ne sera pas achevé. Il finira uniquement lorsque nous serons devenus conformes à lui. La seule chose que Dieu nous donne comme consigne pour cette sanctification progressive, elle se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Elle nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance dans l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. J'aime bien ce proverbe, ce psaume 37 qui dit « Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. » Dieu ne peut pas compter sur notre sanctification personnelle pour nous sauver. Il ne peut pas compter là-dessus, ça vaut rien. Il doit nous sanctifier, lui, une fois pour toutes. C'est ce qui se passe au moment de notre conversion. Ensuite, il va être présent dans notre marche quotidienne. Ça va être progressif pour nous rendre petit à petit semblables à son Fils. Ça va être comme ça. Pour certains, ça va être. Pour d'autres, ça va être un petit peu mieux. Mais on est tous passés par là, on doit tous passer par là. Dieu ne peut pas compter sur notre bonne conduite pour nous sauver. Sinon, il l'aurait fait déjà avec Adam. Il l'aurait fait avec Adam. Ou avec Noé. Ou avec Moïse. Il compte sur la bonne conduite de Christ. Sur sa sainteté, sur son sacrifice à la croix pour nous sauver. Je crois que ça vaut la peine de s'accrocher. Je termine juste par un verset. Le verset de Romains 8, qu'il dit, car tous ceux qu'il a connus d'avance, car tous ceux qui lui appartiennent, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça le but. Le but est déjà atteint. À être semblable à l'image de son Fils afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Je vais prier. Seigneur, simplement te dire merci ce matin pour ce que tu as fait et qu'il nous est impossible de faire. Tu as fait 100% du chemin, 100% du travail. Tu nous donnes même la force pour pouvoir dire oui, pour pouvoir être accompagné par toi dans ce renouvellement intérieur, dans ce changement, dans cette transformation qui va nous rendre semblables à l'image de ton Fils. Merci de nous avoir sauvés. C'est certainement ce que nous devons nous souvenir tous les dimanches matins quand nous nous réunissons, quand nous prenons la Sainte-Cène. Peut-être nous souvenir aussi dans nos rapports mutuels, dans ton église locale en tant que frères et sœurs, dans l'amour, dans la grâce. Seigneur, tu nous as graciés, tu nous as aimés alors que nous étions impies, pécheurs, ennemis. Cet amour, cette grâce, Seigneur, tu nous encourages à la vivre entre nous. Seigneur, équipe-nous. Pardon pour tous nos échecs. Pardon lorsque je n'agis pas comme toi tu agis envers moi, envers mon frère. Pardon parce que je ne me souviens pas de ce que tu as payé pour moi. Et je suis tellement exigeant pour les autres. Seigneur, merci pour ta grâce, ta patience et ta miséricorde. Merci pour le chemin que tu fais parcourir à chacun ici dans cette salle. Merci parce que chacun de nous est à des stades différents. Mais chacun de nous t'appartient, chacun de nous est dans ta présence. En tout cas, c'est ce que j'espère. Merci pour ta présence ce matin. Amen.